Dr. Dave Matthewson, Littérature du Nouveau Testament. Conférence 1, Introduction au cours. Symbole copyright 2024 Dave Matthewson et Ted Reel de Brent. Il s'agit de l'histoire
et de la littérature du Nouveau Testament du Dr. David Matthewson. Conférence 1, Introduction au cours. Dr. David Matthewson. Très bien, allons-y et commençons. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est simplement parler un peu de ce cours, de ce que l'on attend de vous et de ce que nous allons faire et comment nous allons le faire et parler un peu du programme et de quelques d'autres choses et où vous pouvez trouver ces informations. Mais commençons par la prière et ensuite nous ferons cela. Père, merci pour l'opportunité, le privilège et la responsabilité d'étudier ce qui n'est rien de moins que ta parole et ta révélation sous la forme du Nouveau Testament. Je prie pour que, suite à ce cours, nous soyons mis au défi de l'examiner de différentes manières et de poser des questions différentes. Père, aide-nous à être mis au défi de relier cela aux autres disciplines que nous poursuivons dans la vie et ici au collège. Et Père, je prie maintenant pour la patience pendant que nous travaillons sur ce matériel, pour la persévérance, et Seigneur, la force de traverser ce semestre et de réfléchir clairement au Nouveau Testament et aux différentes questions qui tournent autour de sa compréhension, de sa lecture et de son application à nos vies. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Très bien, alors bienvenue dans le Nouveau Testament. Ce que je veux faire, c'est que la première chose que je ferai, c'est parler de manière très générale de ce qu'est ce cours et de la façon dont nous aborderons le Nouveau Testament, puis dire quelque chose détaillé en ce qui concerne les responsabilités et exigences spécifiques et puis où vous pouvez trouver des informations telles que le programme et un cahier qui accompagne également ce cours. Je dirai quelque chose comme ça dans un instant. La façon dont je souhaite aborder le Nouveau Testament, alors que je marchais jusqu'ici, je pensais à la façon dont les cours d'enquête comme celui-ci sont souvent traités. Avec le Nouveau Testament, par rapport à l'Ancien Testament, ma tâche est beaucoup plus facile car l'Ancien Testament, tant du point de vue historique que littéraire, couvre un groupe d'écrits beaucoup plus large sur une période de temps plus longue. Le Nouveau Testament est plus abrégé et couvre une période de temps très courte, du moins l'époque à laquelle il a été écrit et les événements auxquels il faisait référence. Et juste en comparaison, il suffit de feuilleter une Bible anglaise dans la traduction anglaise et on se rend vite compte que le Nouveau Testament est bien plus court que l'Ancien. Ma tâche est donc un peu plus facile à cet égard. Cependant, chaque fois que vous avez affaire à une classe d'enquête, je peux faire deux choses. Tout d'abord, je pourrais être très général et couvrir chaque livre assez rapidement pour m'assurer que nous parcourons l'intégralité du Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse, et introduire des éléments comme l'auteur principal du livre, l'heure à laquelle il a été écrit et le principal auteur du livre. L'arrière-plan et le thème principal et parcourir simplement les livres de cette façon. Et comme je l'ai dit, cela garantirait que vous obteniez quelque chose sur chaque livre et que vous obteniez une introduction à chaque livre. Le problème est que vous n'êtes pas vraiment initié au texte spécifique, au problème spécifique ou au problème d'interprétation dans certains livres. Vous le parcourez assez rapidement. L'autre option à l'autre extrémité de l'échelle est probablement plus courante, et c'est simplement de commencer par Matthieu et de parcourir et de voir jusqu'où vous parvenez à travers le Nouveau Testament. J'ai connu un certain nombre de personnes qui enseignent des cours d'études du Nouveau Testament comme celui-ci et qui n'ont jamais dépassé le livre des Actes pendant tout le temps où ils l'ont enseigné. Ce n'est donc pas non plus très souhaitable, car vous obtenez alors environ un quart ou un cinquième du Nouveau Testament et vous n'êtes exposé à rien d'autre. J'ai choisi de faire en quelque sorte une combinaison des deux pour que pour la plupart, puisqu'il s'agit d'un cours d'enquête, nous restions plutôt larges et avancions assez rapidement dans les livres. J'ai l'intention d'aborder dans une certaine mesure tous les livres, de Matthieu à l'Apocalypse, mais nous avancerons parfois assez rapidement, d'autres fois nous ralentirons dans certains livres et examinerons plus en détail des textes ou des passages problématiques qui vont peut-être vous intéresser ou des passages qui sont cruciaux pour comprendre le livre ou quelque chose comme ça. Encore une fois, la plupart du temps, ce sera un peu comme survoler en avion et regarder l'ensemble du paysage des livres du Nouveau Testament, mais parfois nous plongerons plutôt près du sol et y jetterons un coup d'œil détaillé avant de remonter. J'espère donc que nous pourrons combiner le meilleur des deux mondes, en vous donnant au moins quelque chose, une introduction à chaque livre afin que vous ayez une idée de ce dont parle chacun des livres et de ce qu'ils font dans le Nouveau Testament, mais au final en vous donnant en même temps un aperçu de certains textes, encore une fois, qui posent problème ou qui sont intéressants ou cruciaux à comprendre. Souvent, généralement à chaque fois que j'enseigne ce cours, la plus grande plainte, il y a probablement beaucoup de plaintes que je reçois, mais la plus grande plainte que je reçois est que je ne traite pas assez en détail les textes du Nouveau Testament, que je n'y vais pas dans certains passages en détail. Si telle est votre plainte, j'ai une réponse, essayez de devenir un spécialiste des études bibliques, et ensuite vous pourrez suivre tous les cours que vous voulez qui se concentrent sur des livres spécifiques, mais ce n'est pas le but de ce cours. Encore une fois, je veux parfois être précis pour vous donner une idée de la façon dont j'interprète les livres et de la façon dont j'aborde les livres, mais encore une fois, si vous recherchez une étude détaillée du texte, alors utilisez certains de vos cours au choix pour des cours bibliques. Étudier ou double majeur ou l'ajouter comme mineur ou devenir une majeure en études bibliques, car c'est là que vous pourrez entrer dans un texte biblique spécifique du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament de manière beaucoup plus détaillée que ce que nous sommes autorisés ou autorisés à faire dans cette classe. Encore une fois, à moins de commencer par Matthieu et de voir jusqu'où nous allons, mais à la place, je veux, encore une fois, vous donner un aperçu, un petit aperçu de, vous donner quelque chose de tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Très bien, c'est donc un peu là où nous allons. L'accent sera mis sur chacun des livres, et je veux que vous compreniez que les documents du Nouveau Testament et leur compréhension, comme l'Ancien Testament, consistent à les comprendre comme une combinaison de documents historiques. Autrement dit, nous verrons qu'aucun écrivain biblique ne s'est simplement assis et n'a commencé à écrire pour le plaisir d'écrire un livre. Ils abordaient le plus souvent des problèmes assez spécifiques qui se posaient dans l'Église au 1er siècle. Ainsi, lorsque Paul s'est assis et a écrit un livre comme Galates, il ne s'est pas contenté de s'asseoir et de se sentir inspiré un jour, et il s'est assis parce que les chrétiens, 2000 ans plus tard, avaient besoin de lire ce livre que nous appelons Galates. Paul a pris conscience d'un problème très spécifique qui l'a plutôt bouleversé et même en colère, et en réponse à cela, il s'est assis et a utilisé une manière d'écrire très courante au 1er siècle, quand on ne pouvait pas être présent pour parler à quelqu'un, la meilleure chose à faire était d'écrire une lettre. Ainsi, Paul écrit une lettre aux Galates. Ainsi, d'une certaine manière, nous voulons comprendre le Nouveau Testament dans son contexte historique. Il s'agit de documents vivants et respirants, écrits dans un contexte historique spécifique, répondant à des besoins, des problèmes et des situations très spécifiques dont l'auteur est conscient et qu'il écrit pour y répondre. Aucun des livres du Nouveau Testament n'est même proche d'être un manuel théologique qui vous dit « Voici tout ce que Paul pense à propos de la scène du Seigneur. Voici tout ce que Paul pense des dons spirituels. » Voici tout ce que Paul pense de Jésus et tout ce qu'il pense du Saint-Esprit. Au lieu de cela, encore une fois, Paul aborde, oui, il écrit des idées et des pensées théologiques, mais il aborde des circonstances et des situations très spécifiques. Donc, une partie de ce que nous voulons faire est d'examiner le Nouveau Testament, et peut-être que ce sera notre objectif principal, en fait, d'examiner le Nouveau Testament dans son contexte historique et culturel. Comment était-ce, dans un sens, de lire ces lettres en tant que chrétien du 1er siècle? Pourquoi ont-ils été produits en premier lieu? Encore une fois, pourquoi Matthieu a-t-il écrit son évangile, et pourquoi Marc en a-t-il écrit un? Pourquoi Luc en a-t-il écrit un troisième, puis un quatrième, Jean? Pourquoi avoir quatre évangiles différents dans le Nouveau Testament qui attestent tous de la vie du Christ? Eh bien, c'est parce qu'il écrivait tous les quatre dans des circonstances très spécifiques et qu'il essayait de faire quelque chose de différent dans leur façon d'écrire. J'espère donc qu'à la fin de ce cours, vous aurez une idée du Nouveau Testament et des documents comme, encore une fois, des documents vivants et respirants produits dans un environnement très spécifique, culturellement et historiquement. Et donc, ce sera ma tâche, en un sens, de retracer ce genre d'environnement, de le construire pour vous, et d'essayer de nous aider à voir ensemble ce qui se passait au 1er siècle, et pourquoi certains de ces des livres ont été écrits. Comment comprenons-nous certaines de leurs références? L'un des premiers textes que nous examinerons avant d'aborder le Nouveau Testament pour vous montrer à quel point le placer dans un contexte plus large fait une différence est l'histoire de Noël. Le plus souvent, notre compréhension et notre conception de l'histoire de Noël, du tableau ou du cadre conceptuel que nous avons peint, ont probablement été plus éclairées par notre tradition moderne et certaines des histoires de Noël que nous transmettons que par notre tradition moderne et par certaines des histoires de Noël que nous transmettons. Par le contexte historique du 1er siècle, c'est donc une façon de considérer le Nouveau Testament, de le considérer comme des documents historiques produits dans un environnement spécifique en réponse à des problèmes spécifiques écrits par des personnages historiques à d'autres personnages historiques, et d'essayer de comprendre le Nouveau Testament à cette lumière. Cependant, en même temps, le Nouveau Testament comprend ce que le peuple de Dieu a toujours considéré comme rien de moins que les Écritures ou la parole de Dieu. Nous devons donc comprendre comment se fait-il que ces documents historiques continuent d'avoir une validité durable. Comment fonctionnent-ils encore aujourd'hui comme écriture, comme parole de Dieu pour le peuple de Dieu? Ainsi, même si notre tâche principale et notre accent principal seront de construire le contexte historique et de comprendre le caractère historique et culturel de ces documents, je ne veux pas que nous ignorions le fait que ces documents historiques, comment ces documents historiques fonctionnent encore. Comme l'Écriture. Comment fonctionne-t-il encore comme parole de Dieu? Comment sont-ils encore la parole de Dieu pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Parce que ce ne sont pas seulement des documents historiques. Si tel était le cas, nous pourrions simplement examiner le contexte historique et nous en tenir là. Mais parce qu'il s'agit également de documents théologiques, l'Église a toujours cru qu'il s'agissait d'écritures inspirées de la parole de Dieu. Comment continue-t-il à nous parler comme la parole de Dieu? Quel est le message théologique constant de ces textes historiquement enracinés? C'est donc un peu là où va ce cours. Avant de parler d'exigences spécifiques, des questions. L'autre chose aussi est que, j'espère, même si une classe de cette taille et de cette nature, étant une classe d'enquête, un certain nombre de cours magistraux sont nécessaires. J'espère que ce n'est pas le cas, je ne le suis pas, vous n'allez pas venir m'écouter parler pendant une heure. Je suis ouvert aux questions. J'accepte les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi ou avec des commentaires, et parfois je vous poserai des questions sur ce que vous avez lu ou sur le texte ou sur quelque chose que j'ai dit, ou sur un problème spécifique, parfois spécifique, dans le texte. Nous y travaillerons ensemble, mais j'espère que cela ne finira pas simplement par rester ici pendant une heure et vous parler du Nouveau Testament, même si j'aimerais le faire. Jusqu'à présent, avez-vous des questions de manière générale sur ce que nous faisons dans ce cours? Très bien, sinon, la deuxième chose concerne les exigences spécifiques. La première chose est évidemment, eh bien, laissez-moi revenir en arrière. Il y a deux documents importants qui, outre vos manuels et la Bible, dont nous parlerons dans un instant, il y a deux autres documents importants dont vous avez besoin pour ce cours, un programme, et puis il y a un cahier, un Nouveau Testament. Cahier que je suivrai dans nos cours et discussions en classe. Vous pouvez télécharger les deux à partir de Blackboard. Le programme est déjà là-haut. Les notes ne le sont pas. Je suis encore en train de faire quelques ajustements, mais ils seront sur le site Blackboard pour ce cours sous contenu avant la période de cours de lundi. J'espère donc que je les aurai dimanche soir un jour. Donc, dimanche soir, mais au moins avant ce cours de lundi, consultez le tableau noir pour télécharger les notes de ce cours. Les notes sont très importantes. Encore une fois, c'est ce que je suivrai dans notre conférence discussion. Les examens dont nous parlerons dans un instant seront également basés sur le cahier. Et encore une fois, ce sera sur Blackboard. Alors, assurez-vous que je vais parler un peu du programme aujourd'hui, mais j'espère sans y faire référence, mais j'espère que cela vous aidera à le comprendre lorsque vous le téléchargerez et le lirez. Alors s'il vous plaît, allez sur Blackboard et regardez le programme. Et encore une fois, les notes et le cahier seront déposés avant le cours de lundi. Cela dit, la première chose que vous devez évidemment apporter en classe est une Bible. C'est l'histoire du Nouveau Testament. Alors s'il vous plaît, apportez un Nouveau Testament de n'importe quelle traduction que vous aimez. Je suivrai généralement soit la NIV, soit une nouvelle version standard révisée, mais cela n'a vraiment pas d'importance. Je ne vais pas lire beaucoup le texte, mais je veux que vous vous assuriez d'avoir un Nouveau Testament avec vous. Si vous lisez le grec, vous pouvez également apporter un Nouveau Testament grec. C'est très bien. Mais tant que vous avez un Nouveau Testament avec vous, apportez-le. Nous y ferons référence et l'utiliserons dans notre discussion en classe et dans les discussions sur les différents livres du Nouveau Testament, évidemment. L'autre chose, en ce qui concerne le matériel de lecture, il existe trois manuels principaux pour cette classe. Le manuel principal, en quelque sorte votre manuel principal, est Introduction au Nouveau Testament. C'est la première fois que j'utilise ce manuel. Au début, je n'avais pas l'intention de changer de manuel ce semestre, mais quand je l'ai pris, j'ai découvert qu'il suivait de très près la façon dont je traite chaque livre du Nouveau Testament. En ce sens qu'il discute du contexte et de la raison pour laquelle le livre a été écrit, puis il aborde les thèmes, idées et mouvements dominants de chaque livre. Ce sera donc en quelque sorte notre manuel principal. Vous le trouverez sous introduction dans le programme. Chaque semaine, j'ai listé ce que vous devez lire, Introducing sera le manuel principal, et vous lirez les chapitres correspondants à ceux dont nous discutons ce jour-là. Et au fait, continuez à lire le manuel. Je reçois cette question à chaque fois, chaque semestre, veuillez suivre la lecture du manuel dans le programme, quel que soit l'endroit où nous en sommes dans la classe. Si nous prenons un peu de retard, ne pensez pas que vous puissiez faire une pause. Suivez le programme, peu importe où nous arrivons. Habituellement, je suis assez bon, si je prends du retard, au moins rattraper mon retard dans une semaine environ, mais suivre le manuel. Ceci, avec le programme, ce manuel-là, l'autre chose à ce sujet, contient un certain nombre de tableaux utiles et d'autres choses comme ça qui résument les caractéristiques importantes du livre. Encore une fois, il s'agit de votre manuel principal qui est en fait organisé selon les livres du Nouveau Testament. Il y a deux autres livres que je vais vous faire lire. L'un d'eux s'appelle « Donner du sens au Nouveau Testament ». Ce qu'il fait, c'est qu'il ne s'agit pas d'une étude du Nouveau Testament. Il s'agit d'une série de chapitres, ou de trois ou quatre chapitres, sur des questions liées à la manière dont, en tant que chrétiens, nous lisons et appliquons le Nouveau Testament. Ainsi, par exemple, le premier chapitre principal porte sur la question de savoir si le Nouveau Testament est historiquement fiable, ou si le Nouveau Testament est en grande partie fictif, c'est-à-dire si les auteurs du Nouveau Testament étaient si préoccupés par la théologie et par ce qu'ils croyaient au sujet du Christ qu'ils n'étaient pas intéressés du tout dans l'historicité des événements. La question est donc, Ken, quand nous lisons le Nouveau Testament, que lisons-nous ? Nous avons déjà dit, oui, nous lisons de la théologie, mais dans quelle mesure les documents du Nouveau Testament sont-ils également fiables sur le plan historique? Nous parlerons également davantage de cette question. Il y a un certain nombre de questions à soulever à ce sujet car, de toute évidence, aucun des livres du Nouveau Testament n'a l'intention d'écrire l'histoire de la manière dont nous la concevons. Si vous prenez un livre d'histoire dont l'intention, dans une certaine mesure, est simplement influencée par le point de vue de la personne qui l'écrit, il s'agit principalement de raconter des événements historiques dans un certain cadre. Les documents du Nouveau Testament ne sont pas essentiellement destinés à constituer une approche de type livre d'histoire. Il s'agit de théologie, mais en écrivant de la théologie, dans quelle mesure faut-il également faire confiance au Nouveau Testament sur le plan historique ? La première question porte sur cela. Il y a une autre question que ce livre soulève, le christianisme remonte-t-il à Jésus lui-même? L'une des idées principales encore assez courantes autour du Nouveau Testament est que ce que nous appelons le christianisme, ce que nous appelons le christianisme, et ce que nous croyons au sujet du Christ et de l'Église, etc., vient de l'apôtre Paul, celui qui a écrit la plupart du Nouveau Testament, Romains, Galates, etc. Mais Jésus n'a jamais vraiment envisagé l'Église. Jésus n'a jamais imaginé ce que nous appelons le christianisme. C'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard, de sorte qu'il y a, en un sens, deux ou trois religions ou plus dans le Nouveau Testament. Et Paul, ce que nous appelons le christianisme, n'est que l'un d'entre eux. Eh bien, le deuxième chapitre aborde la question de ce que nous appelons le christianisme, est-ce une invention de Paul qui est venue plus tard, ou cela remonte-t-il effectivement à Jésus? Est-ce quelque chose pour lequel Jésus, dans une certaine mesure, s'est lui-même préparé? Et puis le dernier chapitre est, comment appliquer le Nouveau Testament? Par exemple, comme nous l'avons dit, le Nouveau Testament n'est pas censé être une liste de croyances théologiques. Ce serait beaucoup plus facile si nous avions cela. Au lieu de cela, Dieu a choisi de se révéler dans un texte très historique et culturellement conditionné, comme nous l'avons déjà dit. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Vivant 2000 ans plus tard dans une culture très différente, parlant une langue différente, comment donner un sens à ces textes anciens? Comment pouvons-nous les appliquer en tant que peuple de Dieu aujourd'hui? Par exemple, cela fait également intervenir l'Ancien Testament, mais lorsque vous lisez la loi de l'Ancien Testament en relation avec le Nouveau Testament, comment puis-je appliquer certaines de ces lois? Quand je reviens à l'Ancien Testament et que je lis la loi qui m'interdit de porter un vêtement cousu à partir de deux types de tissus différents, comment diable puis-je appliquer cela? Puis-je l'ignorer, ou est-ce que cela a quelque chose à me dire? Ou lorsque la loi de l'Ancien Testament dit de construire un parapet ou une clôture autour du toit de votre maison, qu'est-ce que cela signifie et comment puis-je l'appliquer? Ou pourquoi ne proposons-nous plus de sacrifices d'animaux? Par exemple, pourquoi certains d'entre nous ne portent-ils pas de châles, de casquettes ou de couvre-chefs lors du culte, en plus des chapeaux et autres choses de ce genre, ce qui est plutôt courant? Mais dans Corinthiens, Paul dit aux femmes de porter une sorte de couvre-chef. Est-ce quelque chose que nous devrions suivre ou non? Ainsi, le dernier chapitre traite de la manière dont nous appliquons le Nouveau Testament, un document qui d'une part est très conditionné historiquement et culturellement, produit dans un environnement, une culture et un cadre historique très différents d'une autre, et pourtant nous y croyons toujours. Et la parole constante de Dieu. Alors comment l'appliquer? Comment le lit-on? Le dernier chapitre nous aidera à y répondre. Le dernier manuel que je vous ai demandé est un livre intitulé Les Lettres perdues de Pergame. C'est probablement le seul livre dont j'ai encore besoin depuis la première fois que j'ai enseigné ce cours, et c'est généralement celui qui reçoit les meilleures critiques de la part des étudiants. Les Lettres perdues de Pergame par Bruce Longenecker. Ce qu'est ce livre, le nom lui-même semble assez ancien, mais ce qu'est ce livre, juste pour que vous le sachiez, c'est que ce livre est entièrement fictif. Bien qu'il soit basé sur des événements réels, des lieux et des noms réels, des personnes réelles, les personnages principaux sont entièrement fictifs, pour autant que je sache, mais vous verrez des références à des personnages réels comme Luc, Matthieu et Domitien, certains des Césars romains. Vous trouverez des références à des lieux réels, à des événements réels et à des coutumes réelles du 1er siècle. Mais ce que c'est, ce n'est pas un récit. Ce que c'est un recueil de lettres fictives que Bruce Longenecker lui-même a écrites. Et ce que c'est simplement un dialogue ou une correspondance sous forme de lettres fictives entre deux ou trois fictifs, l'un d'eux est, je pense que l'un d'eux est en fait Luc, l'auteur de l'évangile de Luc, et les actes sont l'un des chiffres, mais la lettre ici est fictive. Ce n'est pas quelque chose que Luc a réellement écrit. Mais ce que fait Longenecker, c'est simplement essayer de trouver une manière intéressante et convaincante de vous rapporter des informations historiques et culturelles importantes. Comment était-ce de vivre en tant que chrétien dans une culture dominée par la domination romaine? Et dominée par la religion païenne et les pratiques religieuses païennes, etc., etc. Et alors, quoi, je pense que vous trouverez cela très fascinant et très intéressant. Encore une fois, comprenez que c'est entièrement fictif, mais il s'agit de relayer et de relier ce que c'est, encore une fois, des événements réels et des situations culturelles réelles, des références culturelles, géographiques et historiques réelles, la représentation des croyances et des systèmes religieux, et les événements sportifs sont basés sur recherches et catégories réelles. Il s'agit donc simplement d'un autre type de livre. Ce n'est pas censé être académique. Il ne s'agit pas simplement de raconter des faits historiques. Encore une fois, c'est entièrement fictif, mais c'est une manière très intrigante et utile de vous présenter les facteurs culturels, historiques et religieux les plus importants du Nouveau Testament. Et donc, nous en parlerons de temps en temps, mais ce sera le troisième manuel que vous lirez. Et vous trouverez dans le programme le planning de lecture de chaque semaine. Pour chaque semaine, la lecture doit être effectuée le premier jour de la période de premier cours de la semaine, qui est généralement le lundi. Mais si nous avons des vacances, un jour de neige ou quelque chose du genre, ce serait évidemment le lendemain de notre rencontre. Mais généralement le lundi, votre lecture des manuels est due et vous trouverez l'horaire sur le planning des cours sur votre programme. Voilà donc la première chose, la lecture de votre manuel. L'autre lecture revient à la mention d'apporter un Nouveau Testament avec vous. Il vous sera également demandé de lire le Nouveau Testament et vous trouverez également un calendrier dans votre programme. En fait, vous commencerez la semaine prochaine, la deuxième semaine. C'est la première semaine, donc je ne m'attendais pas à ce que vous ayez quelque chose à lire pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, la deuxième semaine, vous aurez lu, je pense que c'est comme Matthieu ou Matthieu et Marc, je ne m'en souviens plus. Mais vous trouverez la lecture du Nouveau Testament où vous lisez les livres du Nouveau Testament, de Matthieu à l'Apocalypse, dans le programme du cours. Maintenant, comprenez que ces livres ne correspondent pas nécessairement à ce que nous couvrons chaque semaine. Nous sommes peut-être juste un peu en retard, ce qui est bien. Il est préférable que vous lisiez à l'avance et que vous ayez déjà lu le matériel avant d'en parler en classe. Mais à partir de la semaine prochaine, vous commencerez par Matthieu et suivrez simplement, c'est basé sur les semaines de ce semestre, suivez simplement chaque semaine et lisez, avec vos manuels, les livres du Nouveau Testament requis pour cette semaine. C'est donc la première chose que vous lisez dans le Nouveau Testament et dans vos manuels. La deuxième chose pour vous aider à lire ceci, ou pas seulement celui-ci, mais vos trois manuels, est qu'il y aura 6 quiz inopinés ou pop sur la lecture de votre manuel. Ces quiz ne sont pas destinés à vous faire échouer ou à vous surprendre. J'essaie de les faire, autant que possible, j'essaie de les faire pour que si vous avez fait votre lecture, vous n'ayez aucun problème avec ces quiz. Ils sont simplement destinés à voir si vous avez lu le matériel. Et je ne vais pas vous demander quelque chose comme, en introduisant sur le tableau de la page 45, dans le coin droit du tableau, quel mot a écrit l'auteur, je ne vais pas vous demander ce genre de choses, ou ce qu'il y avait dans la note en bas de page, ou à la cinquième ligne du paragraphe 3. Je vais vous poser une question large, en d'autres termes, lorsque l'auteur passe du temps sur quelque chose ou semble mettre l'accent sur quelque chose, c'est le genre de choses que je vais poser. Mais il y aura 6 quiz disséminés tout au long du semestre, à l'improviste, sur les supports de lecture. Généralement, ces quiz auront lieu lundi. De temps en temps, j'attendrai peut-être jusqu'à mercredi, mais je ne leur donnerai pas vendredi. La raison pour laquelle je ferai cela est que si je répondais à un quiz sur quelque chose que j'ai lu lundi ou mercredi, je ne m'en souviendrai pas non plus vendredi. Donc, je le ferai quand ce sera frais dans votre esprit. Ce sera donc généralement lundi, mais de temps en temps, cela pourrait aussi être mercredi. Ainsi, même si vous terminerez votre lecture d'ici lundi, je la réviserai et la reviserai avant mercredi. Mais je ne vous ferai pas de quiz un vendredi. Parce que encore une fois, si vous avez lu tout votre matériel d'ici lundi, si vous êtes comme moi, vous aurez généralement oublié le matériel à ce moment-là. Non, pas ce cours. Vous n'oublierez pas ce matériel. C'est trop précieux, non? Donc 6 quiz inopinés. L'autre exigence est qu'il y aura 4 examens dans ce cours qui couvriront le contenu de votre lecture de la Bible. Encore une fois, je ne vais pas poser de questions spécifiques tirées de la lecture de la Bible sur ce que dit le verset 16 de Matthieu chapitre 5. Je ne vais pas demander des choses comme ça. Mais votre lecture de la Bible, et surtout le matériel de cours. C'est là qu'intervient votre ordinateur portable. Comme je l'ai dit, le cours magistral et la discussion en classe suivront le cahier qui se trouve sur Blackboard et que vous devez télécharger. Et c'est principalement cela, et votre lecture de la Bible est la base des examens. Je sais que je viens de terminer la phrase avec une préposition, mais ce n'est pas grave. Je constate cela de plus en plus dans les écrits universitaires. Donc, je pense que je peux le faire. Ainsi, les examens seront passés principalement à partir du matériel de cours discussion provenant du cahier que vous devez télécharger. il ne couvrira pas la lecture du manuel. Donc, il y en aura, du moins je ne le ferai pas intentionnellement, seulement dans le sens où une partie de cela chevauche ce que nous disons en classe, je ne réponds intentionnellement à aucune question d'examen dans les manuels. C'est à cela que servent les quiz. Et au fait, autre chose à propos des quiz, les quiz sont uniquement pour cette semaine. Donc, si nous n'organisons pas de quiz pendant environ 3 semaines, vous n'êtes pas responsable de tout ce matériel. Le quiz ne portera que sur la lecture de cette semaine. C'est une autre question que l'on me pose une centaine de fois, même si je pense l'avoir expliqué clairement. Alors, est-ce que tout le monde comprend ça? Les quiz portent uniquement sur la lecture de cette semaine, pas sur une autre semaine. Donc, s'il n'y a pas de quiz au cours de la 2e semaine, vous ne serez pas responsable de cette lecture sur un quiz. Lorsque vous venez en classe, si je vous donne un quiz pop, il portera sur la lecture de cette semaine, pas sur les semaines précédentes. D'accord, donc 4 examens qui couvrent à peu près les principales parties du Nouveau Testament. Le premier sera dans les évangiles et dans certains documents de base. Au cours de la première ou des 2 premières semaines de ce cours, nous parlerons principalement du contexte du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas né du vide, mais a été produit à la fin d'un grand nombre de mouvements historiques, culturels et religieux et de courants religieux qui ont contribué à son émergence, ou du moins auxquels le Nouveau Testament a souvent répondu. Nous allons donc passer quelques semaines à discuter, préparant en quelque sorte le terrain pour travailler sur les livres du Nouveau Testament. Mais le premier test portera généralement sur ce matériel contenu dans les évangiles, puis sur les actes et les épîtres de Paul, pour finalement aboutir au livre de l'Apocalypse. Vous pouvez le trouver dans votre programme, encore une fois, j'ai la semaine. Je n'ai pas de date précise. Cela dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle nous arrivons au matériel, du fait que nous ayons des jours de neige ou quelque chose du genre, du fait que je sois en retard ou de votre envie de parler et de poser des questions. Mais en général, j'ai au moins la semaine pendant laquelle on peut s'attendre aux examens. Le premier aura probablement lieu à la fin de la 5e semaine sur un fond et les évangiles. Vous disposez donc de environ 5 semaines avant de pouvoir vous attendre à un examen. Et puis nous passerons encore plusieurs semaines, travaillerons sur plus de matériel, puis nous aurons un autre examen couvrant cela. Il y en aura donc 4 dans la classe. Il y aura également un examen final complet sur ces 4. Bien qu'il soit basé sur ces 4 examens, l'examen final n'introduit pas de nouvelles informations ou de nouveaux éléments qui ne figuraient dans aucun des examens précédents. Donc, si vous n'avez aucun problème avec les 4 examens, vous ne devriez avoir aucun problème avec la finale. Encore une fois, l'essentiel de la note dépendra de vos 4 examens sur les 6, ainsi que des 6 quiz, et ensuite votre lecture informera cela et aidera à cela. Il y a encore une chose que je veux dire à propos de ce cours. Chaque année, des gens me posent des questions sur un crédit supplémentaire. Je n'accorde pas de crédit supplémentaire en ce qui concerne la lecture supplémentaire, l'écriture supplémentaire ou quoi que ce soit du genre. Mais une chose que je fais depuis quelques années, c'est que j'ai quelques assistants techniques pour cette classe qui doivent m'aider à faire des notations et d'autres choses. L'un des assistants techniques organisera 4 séances supplémentaires d'évaluation des crédits. Il reste maintenant à déterminer ces séances de crédits supplémentaires. Je dois la rencontrer et je vous ferai savoir bien à l'avance quand ces événements auront lieu et où ils auront lieu. En général, ils auront lieu environ 1 semaine ou au moins quelques jours avant chacun des 4 examens. Encore une fois, ils seront 4. Et ce qu'ils sont, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour tout ce que vous voulez. Il peut s'agir d'une séance de révision lors des études en vue de l'examen ou ils peuvent être utilisés pour discuter plus en détail de certains sujets sur lesquels vous avez des questions ou débattre ou de tout ce dont vous voulez parler. Mais souvent, dans le passé, ils se sont en quelque sorte transformés en une séance de révision de chacun des examens. Vous pouvez donc l'utiliser pour cela. Mais il y en aura 4 et ceux-ci constitueront votre crédit supplémentaire. Vous pouvez vous rendre dans l'un d'eux et obtenir un crédit supplémentaire pour cela, ou vous pouvez vous rendre dans les 4 et obtenir plus de crédits supplémentaires. L'autre chose concernant le crédit supplémentaire, encore une fois, je tiens à être clair, j'annoncerai les horaires et je vous le ferai savoir. Ils surviennent généralement le soir ou la nuit. Évidemment, pendant la journée, ça ne marche pas. Mais je vous tiendrai au courant de la date et du lieu afin que vous puissiez planifier votre emploi du temps. Une autre chose que les gens demandent, si vous choisissez d'y assister, c'est que vous êtes censé participer d'une manière ou d'une autre. Ne vous présentez pas et ne vous asseyez pas pour lire un livre, faire une sieste ou jouer sur votre ordinateur, car vous n'obtiendrez pas de crédit pour cela. Vous devez participer au cours, à la discussion ou poser des questions, ou non au cours mais à la séance de discussion pour obtenir un crédit supplémentaire. Ce crédit supplémentaire apparaîtra donc sur votre note finale. Donc, j'ai eu beaucoup d'étudiants dans le passé, qui passaient un examen et le récupéraient et il n'y avait pas de crédit supplémentaire et ils étaient contrariés de se demander où était leur crédit supplémentaire. J'additionnerai tous les crédits supplémentaires que vous obtenez à la fin du semestre et j'en tiendrai compte dans votre note. Alors ne le cherchez pas lors de votre examen si vous choisissez d'y assister. Encore une fois, ils sont complètement facultatifs, mais si vous voulez un crédit supplémentaire, ne me demandez pas de lire ou d'écrire davantage, allez à ces séances de révision, c'est le crédit supplémentaire pour ce cours. Une autre chose, plus sérieuse, vous verrez que notre cours est filmé par le professeur Hildebrandt, c'est en fait un mécanisme pour contrôler le problème dont je veux parler et qui se joue sur votre ordinateur en classe. Je sais que je ne peux pas, c'est pourquoi Ted veille à ce que cela n'arrive pas. En fait, il y a d'autres raisons pour lesquelles il filme ça. Mais encore une fois, parfois je marche un peu, parfois non et je n'arrive pas à suivre. Mais chaque semestre, des étudiants viennent me dire qu'ils ont été dérangés parce que quelqu'un joue sur l'ordinateur. Évidemment, vous allez apporter vos ordinateurs en classe pour prendre des notes et des choses comme ça. Si vous voulez jouer à des jeux ou à des choses comme ça, allez-y, restez simplement dans votre chambre, ne le faites pas ici. Et s'il vous plaît, soyez respectueux envers moi-même et envers vos pairs. Si vous jouez à un jeu vidéo, il y a quelqu'un juste derrière vous qui essaie d'y prêter attention. Alors s'il vous plaît, si vous voulez jouer à des jeux, envoyez des emails ou jouez sur Facebook ou autre, allez-y, mais restez simplement dans votre chambre, ne le faites pas ici en classe. Ainsi, ceux qui veulent prêter attention et qui y prêtent attention ne sont pas distraits par cela. Sinon, veuillez apporter vos ordinateurs pour télécharger les informations, les notes et prendre des notes et ce genre de choses. Très bien, d'autres questions? C'est à peu près tout ce que je veux dire, à moins que vous ayez une question spécifique sur, j'espère, ce que j'ai dit maintenant, vous pourrez revenir en arrière et lire le programme et cela aura du sens. Il s'agit de l'histoire et de la littérature du Nouveau Testament du Dr David Messieusson. Conférence 1, Introduction au cours. Dr David Messieusson.